Now.
Léo Ferré. Aujourd'hui, j'ai envie d'arrêter un peu le roman de ma vie, qui n'est pas un roman d'ailleurs. Mais comme je suis là pour vous parler de moi, je vais essayer de vous dire en vrac ce que j'aime dans la vie, ou dans ma vie, et ce que je n'aime pas. Eh bien, allons-y. J'adore les spaghettis, avec la sauce tomate et le parmesan. Pas les spaghettis tristes et mal cuits. La pissaladière aussi. Si j'ai le temps la prochaine fois, je ferai comme Monsieur Oliver et je vous donnerai la recette de la vraie, vraie pissaladière. Elle a un secret. Maman me l'a donné. J'adore les chiens. Ça, c'est autre chose. Tous les chiens. Je ne peux pas vivre sans chien. J'ai dû être chien dans une autre vie. J'adore la vie. J'ai une peur atroce de mourir. Même très malheureux, je n'ai jamais voulu mourir. J'adore la musique, la belle musique. C'est tout. C'est beaucoup d'adoration. Eh bien, j'ai au moins autant de haine.
De Léo Ferré, mort un 14 juillet en Toscane, il y aura 20 ans ce dimanche, on connaissait surtout, à côté de ses grandes chansons, son côté anarchiste et son amour pour les poètes maudits. L'image de la star a quelque peu été écornée ces derniers mois par la découverte d'un homme mégalomane, caractériel et solitaire, sous l'emprise d'un singe, Pépé, la chimpanzé qu'il élevait comme sa fille, qui avait fait fuir la plupart de ses amis et qui a conduit à la ruine de son couple. Au moment de célébrer le 20e anniversaire de sa mort, nous avons souhaité passer outre ses querelles, ses histoires, ses sombres procès, pour nous pencher sur ce qu'il a laissé comme œuvre. Plus de 40 albums en 46 ans de création et des chansons inscrites au patrimoine culturel français. Quel était l'homme au travail? Quelles étaient ses influences musicales et littéraires? Comment composait-il? Autant de questions que nous avons eu envie de poser à nos trois invités autour de la grande table aujourd'hui. Tout d'abord, au téléphone avec nous depuis la Toscane, où il vit, Mathieu Ferré, le fils de Léo Ferré. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez créé la maison de disques La Mémoire de la Mer, diffusée par Harmonia Mundi, qui produit des inédits, des reprises assez régulièrement. Et vous avez signé la préface d'une intégrale des textes de votre père, qui paraîtra alors d'ici quelques mois, le 17 octobre prochain chez Gallimard, sous le titre Les Chants de la Fureur. Ici, en studio avec nous, se trouvent deux invités. Ludovic Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous venez de publier une biographie sous le titre « On couche toujours avec des morts », extrait d'une chanson qu'on entendra, je pense, tout
oui,
à l'heure,
Pépé,
j'espère,
oui.
La chanson « Pépé », une biographie donc, de Léo Ferré qui a paru chez Gallimard. Et puis avec nous également, Patrick Ullmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe, vous avez longtemps été un ami très proche de Léo Ferré. Vous souriez d'ailleurs quand on a entendu cette archive, qui est une archive d'Europe 1, de l'émission « Le roman des vedettes » et qui est tirée de ce coffret de 20 CD qui vient de paraître aux éditions Barclay Universal. Vous avez photographié Léo Ferré, notamment à l'Olympia, puisque vous étiez photographe à l'Olympia entre 1969 et 1976.
Bon, pratiquement jusqu'à la démolition de l'Olympia.
Bon, alors encore plus tard que ça. Justement, on entendait donc cette voix de Léo Ferré sur Europe 1. Est-ce que vous avez reconnu l'homme que vous avez connu, Patrick Ullmann, dans ce qu'on a entendu?
Bien sûr. Et puis entendre la voix de Léo, c'est comme entendre sa musique, en fait, quoi, c'est... Et c'était un homme tellement, tellement vrai. Et bien sûr, les textes qu'il dit dans cette émission-là sont écrits, donc on sent bien quand même qu'il le lit. Mais je trouve que c'est d'une telle vérité, et que sa façon de parler est tellement simple. C'est vraiment, Léo, c'est pas l'homme qu'on a pu croire, ou c'était vraiment quelqu'un de complètement simple. Et les phrases qu'il dit, là, au micro... J'allais dire, c'est la banalité, c'est la quotidienneté en tout cas, et celle de Léo.
Mathieu Ferré.
Oui. Alors je tiens à remercier Patrick et Ludovic qui sont avec vous d'abord, et je les salue.
Merci.
Merci.
Et vous salue aussi.
Salut.
Bonjour Mathieu.
Salut. Et oui, qu'est-ce que...
Ah ben, la même question qu'à Patrick Ullmann, quand vous avez entendu, j'espère que vous l'avez entendu, cette archive d'Europe 1, est-ce que vous avez reconnu votre père tel qu'il était, tel qu'il s'exprimait, exactement ce que vient de dire Patrick Ullmann, ou vous avez envie de rajouter quelque chose?
Non, évidemment, je reconnais. Et puis, je connais si bien ces enregistrements. Oui, je le reconnais, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était quelqu'un, comme dit Patrick, de simple, généreux, avec beaucoup d'humour aussi. Et tout cet aspect, ce côté un peu sulfureux, un peu qu'on a voulu un peu montrer de lui, un peu voilà, un peu agressif, comme ça, c'était quelque chose qu'il y a eu certainement une époque à partir de 68 à 73, on va dire, où il a été un peu dans sa vie privée, il a quitté son épouse de l'époque, et ça, on l'a beaucoup on l'a beaucoup appelé aussi, on l'a un peu mis comme ça sur avec mai 68, un peu comme ça, comme un porte-parole, tout ça, ce qui l'a agacé quelque part. En fait, déjà dans les années 50 ou 60, il disait déjà les mêmes choses. Si vous écoutez Le Bateau espagnol, quelque part, qu'il a écrit en 1950, il y a déjà cette révolte et cette anarchie. Donc, en 68, un certain public l'a découvert, c'est tout. Et donc, beaucoup de journalistes, après, l'allaient... aller l'ennuyer avec des questions sur sa vie privée ou sur ce fait comme ça de parler de l'anarchie, de la révolte et puis de gagner sa vie, quoi. Nombre de personnes n'admettaient pas ou n'aimaient pas que lui, voilà, gagne sa vie avec ses idées, quoi. Donc ça a été un peu sa violence, ça vis-à-vis de certains journalistes à ce moment-là, ça a été, je pense, un peu une sorte de réflexe pour se protéger quelque part, quoi. Après, quand cette époque est passée, beaucoup, moi, j'ai rencontré nombreux journalistes qui m'ont dit, ah, mais j'avais interviewé Léo et j'avais peur de le rencontrer, de le voir. Et puis, en fait, c'était quelqu'un, était surpris quand il le rencontrait, de rencontrer quelqu'un de charmant, de gentil, de simple, voilà.
Oui, la simplicité, c'est aussi ce que disait Patrick Hulman, simplicité, générosité, humour également, avez-vous dit. Puis on a glissé progressivement vers l'idée de révolte, et c'est peut-être pas pour rien, Ludovic Perrin, que le titre, non seulement du coffret de 20 CD qui vient de sortir, et qui s'appelle L'Indigné, mais aussi donc de cette anthologie à paraître en octobre qui s'appelle Les Chants de la Fureur, c'est peut-être pas anodin que ces titres ont été choisis. L'Indigné, Les Chants de la Fureur, on est aussi quand même dans la révolte. C'est l'anarchie, la révolte, la fureur pour vous qui ressort de ce portrait que vous avez dressé, vous, dans la biographie que vous venez de faire paraître.
Pour moi, en fait...
Et puis après, on ira sur l'œuvre, hein, vraiment.
Pour moi, Léo Ferré, en fait, il est dans une construction, il est dans une recherche complète de l'enfance en permanence. C'est-à-dire que l'anarchisme, toute cette révolte, c'est les choses qu'il essaye de réparer constamment de l'enfance. Il y a l'acte fondateur de l'anarchisme de Léo Ferré, c'est le moment où, à 9 ans, on l'envoie dans un pensionnat en Italie, et là, devant, en fait, le douanier qui lui fait ouvrir sa valise et qui refuse que Léo Ferré rentre avec des bananes en Italie, Léo Ferré mange les bananes une à une devant le douanier, et là, Léo Ferré va dire « c'était mon premier geste d'homme, en fait, c'est le premier geste d'anarchiste ». Et Léo Ferré va toute sa vie, en fait, reproduire ce geste. Moi, j'avais pas l'impression... J'ai pas ce genre d'identification, d'image de Léo Ferré, d'homme politique. Je pense que c'est quelque chose qui est très intime, très intérieur, en fait.
Patrick Hulman.
Mais ni de fureur, ni de colère, ni de personne qui fasse peur. Mais c'est.
Ah ben, enfin, moi, ça fait partie de la légende.
Ah, mais c'est une légende absolue. Léo était, mais je répète, l'homme le plus gentil que j'ai pu connaître. Et effectivement, avec une part d'enfance énorme, et quand Léo vous regardait, avec un certain sourire et un certain regard qu'il avait, c'était vraiment, vraiment un gosse. C'est-à-dire que il avait une espèce de, c'est peut-être pas le mot, mais de naïveté et de crédulité très, très, très enfantine. C'est comme ça qu'il s'est fait avoir beaucoup, hein, quand même, dans la vie, hein, par des gens. Parce que c'était facile, parce qu'il était gentil, parce qu'il avait ce côté enfantin et désarmant.
Alors quand on lit votre biographie, Ludovic Perrin, quand on pense aussi à la biographie de Robert Bellerey, qui écrit lui-même d'ailleurs que dès qu'on plonge dans l'exploration intime de Léo Ferré, ben, les cimes frôlent parfois les abîmes, on lit quand même quelqu'un qui avait un tempérament méditerranéen, qui pouvait s'emporter.
Voilà,
pouvait s'emporter.
En face d'une injustice.
Pas toujours très facile, disons, pas toujours très commode, ce qui n'empêche absolument pas la gentillesse.
J'étais avec lui au studio Barclay, il enregistrait un disque, quand on a exécuté Buffet et Bontemps, il est arrivé au studio, il venait d'apprendre l'exécution, et lui, il avait enregistré pour ses chansons. Ça a été terrible. D'abord, la douleur qu'il a ressentie vraiment, parce qu'on a dit, oui, mais Léo, souvent, c'est la frime, il écrit opportuniste. Non, vraiment, la mort de Buffet et Bontemps, après, il a écrit une chanson beaucoup plus tard, d'ailleurs. Hein. Mais de toute cette journée-là, il a été complètement bouleversé et il m'a dit, tu te rends compte, il n'a pas décroché le téléphone. Et ça voulait dire, Pompidou n'a pas appelé pour sursoir à l'exécution.
À cet égard, je vous propose d'écouter Laurent Stocker. Laurent Stocker, c'est un comédien sociétaire de la Comédie Française. Ségolène Darny pour La Grande Table est allée le rencontrer. Il se trouve qu'en 2008 et en 2011, il a incarné Léo Ferré dans un spectacle qui s'était intitulé « Trois hommes dans un salon », mis en scène par Anne Kessler. Spectacle qui reconstituait le célèbre entretien radio du journaliste François-René Christiani avec Brassens, Ferré et Brel. Écoutez ce que dit Laurent Stocker sur sa façon de vivre Léo Ferré.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez fait de votre premier cachet ? On l'a bouffé, je crois. Hein ?
Ça dépend ce que vous entendez par premier cachet. En ce qui les concerne, pour Brel, je le sais, pour moi aussi. Il était pas gros, notre cachet.
Est-ce que tu crois que pour moi, il était gros ? Pour
toi, je sais pas, mais tandis que lui, je le sais, qu'il a dû passer au trois baudets.
Moi, pendant 4 mois, j'ai chanté pour rien. Et le type, lui, il vendait des verres, il faisait de l'argent. Il aurait pu au moins me donner une chambre, parce qu'il faisait aussi hôtel.
C'est mal tombé.
Bah, on tombe souvent mal quand on débute.
Je crois qu'il est vraiment unique en son genre, parce que c'est ses coups de sang aussi qui sont intéressants, c'est ses coups de colère. Quand il fait cette interview, donc avec François-René Christiani, qu'avait mis en scène Anne Kessler au studio théâtre, il est aussi à vif, on sent, par rapport aux autres. Il se sent un peu exclu, et on le remarque dans la façon même qu'il a d'évoquer les souvenirs sur Pépé, etc. Et je crois que, en fait, une fois que l'interview a été finie, il a voulu refaire ce qu'il avait souhaité, c'est-à-dire faire un concert avec les deux autres, et les deux autres n'ont jamais donné suite. Et il y a une interview qu'on peut voir dans les documents d'archives de l'INA, où il est vraiment très énervé par Brel et Brassens. Il dit « ils sont dégueulasses, ils m'ont traîné dans la boue, puis après ils n'ont pas suivi, etc. » Voilà, c'est Ferré, c'était... Et c'est ça, moi j'aime bien ces gens qui sont un peu... qui parlent avec leur cœur, leur trip, et puis voilà, c'est toujours... ils font pas de concessions. Mais en même temps, Ferré, c'était quelqu'un, je pense, comme tous les poètes, une envie d'embrasser le monde, vraiment au sens avec ses bras. Et d'ailleurs, il y a plein de chansons qui sont des chansons de révolte, mais qui sont des chansons d'amour aussi sur le monde. Et c'est ça qui est très beau chez Ferré. C'est qu'il a les deux. C'est pas un personnage manichéen, c'est ça que j'aime bien. Mais il dit effectivement que l'art, c'est une excroissance de la solitude. Et l'artiste est seul. Et c'est vrai, je crois. Je crois qu'il a raison. Je crois que personnellement, je peux très bien comprendre cet état-là. C'est. Oui, c'est quelqu'un qui a une conscience aiguë de ce qu'est la place d'un être humain au monde, en fait. Voilà, il y a Tardieu qui disait « l'enfant savait tout à la naissance et c'est pour ça qu'il pleurait ». Et puis Ferré, il va le mettre en musique, ça.
Ludovic Perrin.
J'aime bien ce que Laurent Stocker dit sur l'amour, parce que pour moi, Léo Ferré, c'est des chansons d'amour, mais un amour qu'il a bien connu et il est bien allé à sa rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mon livre par le départ de Léo Ferré le 22 mars 68 de chez lui. J'ai trouvé ça incroyable qu'un homme, un jour, parte de chez lui et qu'il ne revienne pas en arrière. Il y a plein de gens qui rêvent de faire quelque chose, cette chose, c'est-à-dire de penser que la vie peut recommencer, qu'on peut réinventer. c'est une chose impossible, en fait. On réinvente pas. La vie est un entonnoir et les choses s'enchaînent de cette manière-là. En tout cas, Léo Ferré, je me suis demandé ce qu'il allait chercher, en fait. Qu'est-ce qu'il quittait et qu'est-ce qu'il allait chercher? Et je crois qu'il allait chercher... il allait chercher des choses de son histoire à lui, mais il a aussi trouvé ce qu'étaient des vraies souffrances, des vraies émotions, des vrais sentiments. Et pour moi, c'est le Léo Ferré. Il démarre en fait en 68, c'est-à-dire que jusque-là, c'est quelqu'un qui est très habile, qui est très talentueux. Il fait des chansons à thème, très imprégné de chansons réalistes. Et là, à un moment, il a des vraies souffrances amoureuses, des vrais chocs. Et là, il est en Laurent Stocker, quand il parlait de cette chose de solitude, aussi de cette chose sans filtre, je pense que c'est quelqu'un à partir de 68 qui chante sans filtre, en fait, qui est en lien direct avec ses émotions.
Mathieu Ferré, vous qui avez écrit la préface de cette anthologie qui va paraître, donc de tous les textes et l'intégrale des textes de votre père, qui connaissait vraiment toutes les chansons, est-ce que vous diriez justement à la suite de Ludovic Perrin qu'il y a une période d'avant 68, une période d'après 68, du point de vue des chansons, du point de vue de la façon dont il écrit et du point de vue même de l'évolution de sa plume d'une certaine façon?
Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas une intégrale, parce qu'il y a toute une partie de choses qu'on n'a pas pu mettre pour diverses raisons. Et puis déjà, comme ça, ça va faire un livre très, très important. Donc, on ne pouvait pas tout mettre, de toute façon, dans cette anthologie. C'est presque une intégrale, on va dire. Deuxièmement, je pense que il y a plusieurs styles d'écriture dans Léo. Effectivement, avant 68, il a écrit des choses sous une forme plus chanson, on va dire, plus comme on peut décrire une chanson, couplet, refrain, etc. Avec les thèmes, après, ça c'est... Les thèmes, souvent, ils sont déjà présents. Moi, je veux dire que, par exemple, je redisais Le bateau espagnol, ou Merci mon Dieu, ou Vitrine, ou Sans façon, ou plein de chansons, comme ça, il y a déjà cette côté un peu comme il était. Effectivement, après 68, il y a une cassure dans la façon d'écrire, dans le style. Il n'a pas fait toute sa vie du joli môme, Léo Ferré. Il aurait pu, du Paris-Canard, il aurait pu, effectivement, quand vous êtes un auteur et vous vivez de ça, que c'est votre métier, vous voyez que quelque chose marche et vous continuez à faire toujours la même chose. Léo, il n'a pas fait ça, il a toujours évolué, que ce soit de la façon dont il écrit les paroles ou la musique.
Il a toujours évolué, voilà. Reprenait les chansons.
Si Brassens avait vécu 20 ans de plus, il aurait continué probablement, je pense, à faire encore du Brassens comme il savait faire très bien. Léo, non, il change de style, il écrit des choses différemment, il n'y a plus rien, ça n'a rien à voir avec La Rue ou Le Guinche ou les chansons qu'il pouvait faire dans les années 50, je veux dire, ou 60. Donc, c'est cette liberté qui se prend et qui m'intéresse, quoi. C'est cette évolution, de pas vouloir s'enfermer dans un style, dans un cadre, quoi, de pouvoir naviguer comme ça dans plusieurs... En fait, il exprimait ce qu'il avait envie. Alors, probablement qu'avant, il le faisait moins aussi, peut-être parce qu'il y avait un entourage de sa vie privée ou professionnelle qui le, pas dire lui empêchait, mais le déconseillait ou le conseillait de faire autre chose. Après, quand il est parti en 68, il n'a plus cet entourage qui lui a dit, ben non, fais pas ça, parce que, par exemple, la chanson Les Anarchistes, il l'a écrit avant 68, et Madeleine, sa femme, elle voulait pas qu'il la chante parce qu'il disait que c'était trop dur, trop violent, trop ci, trop ça, et donc il l'a pas fait. Et après, quand il a pu le faire, il l'a chanté, donc il l'a enregistré. Donc ça aussi, c'est significatif, je pense. Sa vie privée, son entourage sont pour quelque part aussi, je pense, responsables souvent on me dit, il y a trois périodes. La période Odéon, et par rapport aux maisons de disques. Donc la période Odéon jusque dans les années 50, la période Barclay qui est dans les années 60, et puis après la période mon disque plus symphonique, plus lyrique et tout ça, qui est après, après 68-70, on va dire. Mais il y a quand même de toute façon des points communs qui se recoupent dans toutes les périodes, c'est évident. C'était lui qui, quand il écrit, c'est son âme et son cœur qu'il met sur la page. C'est
Patrick Ullmann.
Je pense qu'on peut effectivement parler de période, mais comme on parle de période pour Picasso, je veux dire, c'est l'évolution de Léo qui fait ces périodes-là, mais le fond, le terreau dans lequel Léo puise pour ce qu'il écrit est le même depuis toujours, à mon sens.
Mais ce qui est incroyable, c'est que Léo Ferré part de chez lui le 22 mars 68. Le 22 mars 68, c'est le moment où Cohn-Bendit en fait, lance le mouvement du 22 mars à Nanterre. C'est ce qui va donner lieu à mai 68. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, Léo Ferré, en 68, il parle en fait, comme personne ne parle, quoi. Comme un adulte ne parle pas de sexe, de cette manière crue, de cette manière... il parle, en fait, un peu comme un adolescent, en fait, comme un adolescent parlerait de sexualité. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que les jeunes vont voir quelqu'un qui a l'âge de leur père, qui a des cheveux blancs et qui parle comme eux.
Patrick Ullmann.
Je parlais avant de l'enfance par rapport à Léo. Alors, on peut dire effectivement l'adolescence, peut-être plus que l'enfance. Mais surtout, il a fait éclater là, en même temps que 68, c'est au moins en même temps que la rupture Madeleine, c'est la liberté. Et je trouve que Léo, à partir de 68, il se trouve que je l'ai croisé à ce moment-là, mais est devenu, enfin, a assumé sa liberté.
Et il y a une chanson qui marque la rupture, Ludovic Perrin, c'est la chanson Pépé. On va l'écouter.
T'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg. Mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. Pépé.
Ludovic Perrin, en quoi marque-t-elle une rupture, cette chanson, pour vous ?
C'est une des premières chansons que Léo Ferré écrit après son départ donc, de ce château qui s'appelait Perdrigal. C'est une chanson qui est dédiée à son chimpanzé qui a été assassiné. Léo Ferré, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il va, donc, il quitte ce château où se trouve son piano, où se trouvent toutes ses affaires, et il va louer un piano droit, et en fait, il va sortir tout ce qu'il a en lui. C'est-à-dire qu'il ne se repose plus que sur sa bibliothèque intérieure, en fait. Et donc, il fait une chanson d'amour pour un chimpanzé, ce qui est assez unique, en fait, dans les... Et il y a cette phrase, moi, dont je me suis servi pour faire le titre du livre, qui s'appelle « On couche toujours avec des morts », parce que je trouvais ça incroyable. D'ailleurs, lui, il la répète plusieurs fois. Je trouvais ça incroyable d'écrire une phrase comme ça. Ce que ça peut vouloir dire de la part de soi qu'on laisse à certains endroits de son existence, du fait de vivre avec des gens qu'on ne connaît pas, qui sont comme parfois même comme morts et pourtant avec qui on couche, qui peuvent être aussi les personnes avec qui on continue de vivre alors qu'ils sont biologiquement morts, qui sont sur Terre. Ça peut être le Christ, ça peut être pour certaines personnes Léo Ferré aussi, qui par sa voix continue d'accompagner. Et il y avait plusieurs entrées comme ça, et lui, il avait sûrement son interprétation aussi avec elle.
Ludovic Perrin parlait de la façon dont il pouvait créer intérieurement, ou dont jaillissait la musique et la poésie. On sait qu'il avait été très influencé par Ravel, par Beethoven. Mmh. Il avait même très tôt, et d'ailleurs en 75, il a même lui-même dirigé le concerto pour la main gauche de Ravel et Coriolan de Beethoven, les deux compositeurs qu'il adulait depuis très longtemps, puisque c'était une série de concerts au Palais des Congrès. Vous avez d'ailleurs fait l'affiche de ce spectacle,
hein, la photo,
hein. la photographie, oui, Patrick Ullmann. Donc, il avait d'un côté cette musique classique qui l'obsédait, de l'autre côté, un amour pour la poésie, que ce soit Baudelaire, que ce soit Apollinaire, qu'il a beaucoup influencé, Verlaine, Rimbaud, etc. Est-ce qu'on sait, alors je m'adresse peut-être à Mathieu Ferré ou à Patrick Ullmann, qu'il avait connu quand même aussi, qu'est-ce qui était premier pour lui? On sait que Brassens, il considérait que c'était le texte, voilà, d'abord, et puis la musique venait derrière. Pour Léo Ferré, comment ça se passait, musique, Patrick Ullmann?
La musique, vraiment. Et il n'a écrit au départ que pour pouvoir véhiculer sa musique. Vraiment, il était la musique. Et quand il a été mal reçu par les critiques, toute sa vie d'ailleurs, hein, déjà pour les chansons, on lui reprochait des choses, mais qu'il ose toucher à la musique, alors ça, c'était un sacrilège invraisemblable. On est allé jusqu'à souhaiter l'étrangler. Enfin, un critique a écrit que les cordes de violon de Beethoven allaient étrangler Ferré. Je veux dire que c'est quelle haine en face de cet homme, tout simplement parce que cet homme aimait la musique et qu'il n'est pas arrivé en chef d'orchestre. Léo m'avait dit un jour, quand à la fin d'une symphonie que Karajan dirige, on va bientôt arriver avec des pancartes avec le portrait de Karajan et Beethoven, il est où là-dedans? Voilà, c'était vraiment.
Mathieu Ferré, sur cette question-là du rapport avec la musique.
Je n'ai rien à rajouter à ça, c'est tellement bien dit et c'est tellement vrai et juste, c'est comme ça. L'anecdote, je m'en rappelle très bien aussi, c'est quand il dit, voilà pourquoi Karajan revient 5 fois se faire applaudir, et il n'y en a pas un moment, au bout de la 6e fois, un musicien, un instrumentiste qui vient avec un portrait de Beethoven, et puis que ça arrête là, non. Oui, c'est la musique, c'est certain, qui comptait pour lui. Son enfant, il racontait quand il était enfant, comme ça qu'il entendait de la musique et qu'il dirigeait, comme ça qu'il avait l'impression de diriger des orchestres quand il était enfant à Monaco sur les remparts. Et puis le jour où il s'est rendu compte, et pour lui c'était normal, tout, pour lui c'était tout le monde comme ça. Quoi. Il y en a, on allait au marché acheter la bague et le pain, on avait tout ça, et puis la musique c'était pour lui normal. Et quand il s'est rendu compte qu'en fait les autres personnes n'avaient pas ça en eux, il a eu honte quelque part, il s'en est caché. Et voilà, donc ça a toujours été pour lui effectivement la musique. Et bon, on ne peut pas réécrire la vie de personne, quoi, mais si, des fois, vous savez, dans une vie, il peut y avoir des petits chemins qui peuvent être pris différemment. Et admettons qu'un jour, au début de son activité, la musique qu'il écrivait aurait été un peu plus reconnue, probablement qu'il n'aurait pas écrit autant de paroles qu'il l'a écrit, et il aurait fait certainement que de la musique.
Mathieu Ferré, je disais au début de cette émission qu'il vient de sortir un coffret de 20 CD. J'ai envie de dire encore point d'interrogation, point d'exclamation. Ça veut dire qu'il reste encore des chansons à faire paraître. Est-ce que, par exemple, il reste encore des inédits? On dit déjà qu'il est l'auteur, compositeur, interprète le plus prolifique d'expression française, sans doute de ces 50 dernières années, voire du 20e siècle, 40 albums en 46 ans de création. Vous-même, vous vous occupez d'éditer encore des chansons. Il en reste encore à trouver?
Oui, il en reste certainement. Vous savez, quand là, pour ce projet d'intégrale récente là, qui vient de sortir, on a trouvé par chance un enregistrement d'une chanson qui s'appelle La poésie Foulcanvillon, que Léo avait écrit, mais qu'on n'avait pas de trace de ça jusqu'à un mois de janvier. Moi, je j'avais jamais entendu par Léo. J'avais entendu par des interprètes, par Catherine Sauvage, par exemple, ou Jean Vasca qui l'avait chanté, mais par Léo, jamais. Et au mois de janvier, hasard fait qu'un ami collectionneur a été sollicité par Universal pour donner des copies des pochettes et tout ça. Et il a dit, je viens d'acheter au marché Opus un disque pirate. Un pirate, c'est acétate, c'est un exemplaire limite, c'est un unique exemplaire. Mais je ne l'ai pas encore écouté parce que j'ai pas les outils. Donc ils étaient dans ce studio de l'enregistrement, ils l'ont enregistré, copié, ils ont fait une copie de sauvegarde tout de suite, et il y avait dessus cette poésie Foulcanvillon enregistrée par Léo Chant. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, effectivement?
Rien de plus, on va peut-être l'écouter, cette chanson, surtout.
te balances, compagnon, comme une tringle dans le vent. Et le maroufle que l'on pense fout pas mal de tes chansons. Tu peux toujours t'en mitoufler pour la saison chez Gallimard. Tu sais qu'avec ou sans guitare, on finit toujours sur les quais. La poésie fout le camp, Villon. Y'a que du néon sous du néon. Mais tes chansons, même anarcho, ont quelques siècles sur le dos. Si je parle d'une balade à faire avec mon vieux hibou, on me demandera jusqu'où je pense aller en promenade. On ne sait pas dans mon quartier qu'une balade en vers français, ça se fait sur dessous de papier et sans forcément promener. La poésie fout le camp, Villon.
Voilà cette chanson jusque-là inédite. Alors il n'existe pas d'enregistrement collectif, en tout cas pas à ma connaissance, à moins que vous me disiez le contraire, fait par des jeunes chanteurs comme certains l'ont fait par exemple pour Brassens. Est-ce que vous sauriez dire quelle postérité il laisse, quelle empreinte il a laissée à la chanson française en particulier, parce que on se dit qu'il y a Jean-Louis Murat, on se dit qu'il y a Bernard Lavilliers qui se revendique de Léo Ferré aujourd'hui. Parmi les jeunes chanteurs, il faut peut-être souvent aller chercher du côté des slameurs pour trouver des chanteurs qui se revendiquent aussi bien en termes de voix qu'en termes de texte, qu'en termes de sujet de Léo Ferré. Je pense à Grand Corps Malade, je pense à Dead Cabal, à Rossé ou même à Stromae quand on entend Formidable par exemple.
Louis on a vraiment l'impression. Lloyd Cantoine a cette chose aussi. Hein.
Ludovic Perrin.
Oui, il y a des Babix, Lloyd Cantoine. Oui, et c'est plus d'ailleurs dans toute cette forme, comme vous disiez, slamé.
Patrick Ullmann. Léo a été le premier à slammer. Ouais. Il était le premier à venir sur scène avec une musique derrière, mais qui là n'était pas prépondérante, et pour déclamer des textes. Et la scansion, très souvent, faisait penser à du slam dans sa façon de parler, de couper les phrases.
Je trouve qu'il y a une évolution qui est parallèle entre ce qu'a pu faire Jim Morrison, dans l'espèce du chant qui va vers cette poésie déclamée, en fait. Et ils sont un peu, je trouve,
quand il était apparu sur scène et qu'il a déclamé le chien, ce long poème un peu hermétique et superbe. C'était une révolution, mais alors vraiment, moi j'avais jamais vu sur scène ni entendu quelqu'un déclamer un texte de cette façon-là.
Il y a, par exemple, Bob Dylan, quand il passe à l'Olympia, il passe du folk à la guitare électrique, il y a un vrai choc et le public est scandalisé. Et en fait, Bob Dylan fait une conférence de presse où il décrète en fait la liberté de l'artiste, en fait, la liberté de créateur de l'artiste. Et Léo Ferré, il a fait aussi ça, c'est-à-dire qu'il décide d'imposer, il propose un minutage, c'est lui qui décide. Il décide comment il peut relire une de ses propres chansons. On le voit dans les émissions de télé, parfois il les emmène, les chansons, il les emmène un peu avec lui, change, mais c'est à sa guise. Quoi.
Il décide de tout. On peut revenir à Léo, compositeur. Léo qui, pour la première fois, est un chef d'orchestre, dirigeant, face au public. C'est une façon de tout casser, les conventions, ça aussi, on lui a reproché, quoi, mais c'est une révolution énorme. Et il n'a pas mis pour autant les musiciens de dos. Les musiciens étaient trois quarts, c'est-à-dire qu'on les voyait. Tout le monde voyait les musiciens fabriquer leur musique. Et on voyait Léo mouliner. Quand je dis mouliner, on voyait Léo de face vivre la musique. C'est quelque chose de prodigieux. Et il a effectivement toujours tout cassé avec une liberté totale.
Pense à quoi? À la langueur du soir, dans les trains du tiers-monde, à la maladie louche, au parfum de secours, à cette femme informe et qui pourtant s'inonde, au chagrin de la mer, planqué au fond des cours. Tu penses à quoi? À l'avion malheureux qui cherche un champ de blé, à ce monde accroupi, les yeux dans les étoiles, à ce maître inventé pour mesurer les plaies, à ta joie démarrée quand je mets à la voile.
Tu penses à quoi de l'album La Frime ? C'est la chanson du jour pour vous, Mathieu Ferré. On aurait pu aussi diffuser les deux préférés de Patrick Ulman, La Folie, où tu ne dis jamais rien. On mettra bien sûr ces références sur notre site internet. On ne pouvait pas aujourd'hui diffuser toutes les chansons. Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Je rappelle qu'on peut lire votre livre, Ludovic Perrin, On couche toujours avec des morts, paru chez Gallimard. On peut lire également le dictionnaire Ferré que vient de faire paraître Robert Belleret, à qui l'on doit une biographie il y a quelques années aussi. Dictionnaire paru chez Fayard. L'anthologie quasi intégrale des textes de Léo Ferré sera chez Gallimard le 17 octobre. Et sachez que dimanche à 18h sur Arte, on pourra voir un documentaire qui s'intitule Génération Ferré. Bien sûr, tous ces renseignements, vous les retrouverez sur notre page internet, sur le site franceculture.fr. Gérer, maîtriser, alimenter, nourrir tous les jours par Maude Berthomier, notre stagiaire. Un grand merci à Ségolène Darny, à Aude Tortuyo pour la documentation de cette émission, à Corinne Amar pour la coordination et bien sûr à Peyre Legras pour la réalisation. Merci à tous.